Merci de votre fidélité.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Géopolitique, l'Afrique aura-t-elle encore besoin de l'Europe en 2030? Nous retrouvons Christophe Boisbouvier et les intervenants au débat enregistré à Rennes dans le cadre du forum organisé par le quotidien Libération. Arantxa Gonzalez, directrice du Centre du commerce international, bras technique de l'OMC et de l'ONU pour aider les entreprises des pays en développement à s'internationaliser. Anthony Bouteiller, ancien président du Conseil français des investisseurs en Afrique. Et Yves-Ferdinand Manfoubi, directeur général du budget au Gabon, numéro 2 du plan stratégique Gabon émergent.
Dans son rapport remis à François Hollande en décembre, Hubert Védrine fait 15 propositions pour que la France puisse doubler ses exportations en Afrique d'ici 5 ans. J'en énumère quelques-unes. Faciliter la circulation des hommes d'affaires entre l'Afrique et la France par l'obtention de visas économiques accordés aux hommes d'affaires africains. C'est compliqué en Afrique d'avoir des visas pour la France. Vous confirmez, Arantxa?
Permettez-moi de vous raconter une petite histoire. La semaine passée, j'étais invitée par une grande entreprise italienne qui est dans l'agroalimentaire. J'avais l'opportunité de parrainer une jeune productrice de l'agroalimentaire africaine, une Rwandaise. Quand j'ai voulu que la Rwandaise vienne en Italie pour m'accompagner, pour qu'elle tisse des liens avec les entrepreneurs européens, elle n'a pas pu sortir du Rwanda parce que un pays que je ne citerai pas ne lui a pas donné la visa Schengen, sous prétexte que peut-être elle allait rentrer dans les marchés du travail en Europe d'une manière clandestine.
Autre proposition Védrine, qui est assez originale, financer de nouvelles bourses d'excellence pour les jeunes Africains qui veulent étudier soit chez eux, soit en France ou ailleurs en Europe, et en finançant cela à partir de frais d'inscription plus élevés dans les universités françaises quand vous êtes un étudiant étranger. Ça peut paraître choquant et pas tant que ça, en fait, parce qu'en fait, les universités françaises sont les moins chères en Occident. Et puis, autre proposition, élargir la zone CFA, créer une grande zone de stabilité monétaire, élargir au Nigeria, au Ghana, à l'Angola. Bon, ce ne sont que 3 des 15 propositions. Est-ce qu'il y a des remèdes parmi les propositions Védrine que vous retenez, ou est-ce qu'il y en a d'autres, peut-être, qui vous viennent à l'esprit, Anthony?
Tout ça, ce sont d'excellentes idées. Je nuancerai une chose sur le financement des bourses. On dit, je n'ai pas vérifié, que 70% des étudiants africains qui viennent en Europe ou en Amérique du Nord ne retournent pas en Afrique. Et il y a une véritable ponction intellectuelle qui se fait, d'ailleurs, en faveur de nos propres économies du Nord. Et nous, entrepreneurs sur le continent africain, ça nous gêne beaucoup. Et ce que nous avons fait, d'ailleurs, avec l'aide du ministère de l'Intérieur français, de l'AFD, c'est qu'on fait une étude sur les formations en Afrique même. Il faut savoir qu'il y a d'excellentes formations en Afrique, mais elles sont pas connues. Et donc, ce que nous avons proposé au gouvernement français, c'est de faire la sélection des meilleurs centres de formation. Et on a été très vicieux quand on a fait ça, parce qu'on s'est bien gardé de confier ça à un universitaire pour sélectionner les formations, mais on l'a fait faire par quelqu'un qui est le président de notre commission éducation, Didier Akwete, Africa Search, c'est-à-dire quelqu'un qui recrute des Africains pour nos entreprises. Il fait revenir en Afrique à peu près 200 Africains par an de la diaspora. Donc on veut un professionnel qui connaît les besoins des entreprises. Je lui ai dit, écoute Didier, tu ne retiens les formations que tu pourrais recommander à tes clients. Parce que je crois qu'il est extrêmement important de développer en Afrique même les moyens de formation.
D'autres idées pour faire monter un peu la coopération entre l'Europe et l'Afrique?
Oui, Christophe, en sus des 3 éléments cités, moi j'ajouterais 4 conditions pour que l'Afrique et l'Europe marchent la main dans la main. La première condition, c'est tenir un autre discours avec l'Afrique et définir une autre stratégie ambitieuse. Et ici, je fais référence à l'élaboration d'un livre blanc sur l'Afrique. Et le livre blanc devrait aider l'Europe à mieux cerner non seulement les potentialités, mais l'ensemble des problèmes et proposer des solutions adaptées, n'est-ce pas, à cette Afrique. Deuxième condition, c'est renforcer les liens économiques avec l'Afrique qui décolle, parce que l'Afrique est en mouvement. Donc il faut renforcer les liens économiques, et là j'entends par là qu'il faut regarder clairement aussi la conclusion des accords de partenariat économique. Il ne faudrait pas que ça nuise l'intégration régionale. Troisième condition, il faut moderniser la coopération au développement. Parce que en regardant l'attractivité, en regardant aussi l'apport financier extérieur. Il y a lieu aujourd'hui de redéfinir un autre cadre normatif qui tienne compte des ambitions de développement des pays africains. Et quatrièmement, c'est rétablir la cohérence entre la politique d'influence et la politique d'émigration. Le monde attend de nous, c'est-à-dire de nos deux continents, que nous puissions marcher la main dans la main pour gérer la dynamique, n'est-ce pas, de la globalisation.
Arantxa.
Moi, je suis très fanatique de contact humain. Parce que la première condition pour pouvoir vivre dans un monde d'interdépendance, c'est d'aimer se connaître. Alors moi, j'essaierai pour l'idée d'éteindre les fantastiques systèmes d'échange des étudiants universitaires qui existent en Europe et qui s'appellent Erasmus et qui nous a tant aidé à faciliter une meilleure connaissance en Europe dès les éteindre sur le continent africain. Il ne s'agit pas simplement d'envoyer les Africains venir étudier en Europe. Il pourrait s'agir aussi d'envoyer nos étudiants en Europe mieux connaître l'Afrique. Donc, dans les deux sens. Et je le ferai pour les étudiants et je le ferai pour les petites et moyennes entreprises. Parce que c'est les meilleurs moyens de s'assurer qu'il y a un transfert des connaissances qui se ferait aussi dans les deux sens. Il ne faut pas oublier, c'est dans les deux sens aujourd'hui.
Est-ce que tout cela vous fait réagir? Est-ce que quelqu'un veut... Je vois un bras qui se lève au deuxième rang. Voilà.
Donc, je suis Othman Zrikem, je suis cofondateur de Jumpstart Africa. C'est la première plateforme de crowdfunding dédiée à l'Afrique. Et donc, je veux rebondir sur ce que disait Arantxa Gonzalez tout juste maintenant. Par rapport au développement des TPE, PME innovatrices en Afrique, c'est vrai que c'est ce qui va créer la vraie croissance et ce qui va permettre au tissu socio-démographique de bien se développer et que justement cette démographie soit une force et non pas une faiblesse. Et le second élément qui j'aimerais ajouter à ce débat, c'est les flux migratoires. Donc on sait que la France, en particulier l'Europe aussi, est un lieu où il y a une très grande partie de la diaspora africaine, donc que ce soit pour les études ou d'un point de vue professionnel, etc. Et aujourd'hui, on est en train d'assister donc à un élément qui est très intéressant, à savoir des gens qui sont issus de la diaspora, première, deuxième ou troisième génération, qui retournent en Afrique via ou des grands groupes ou dans le cadre de start-up, d'incubateurs de start-up. Et ça, je pense que c'est le vrai relais que moi, personnellement, j'ai observé, que j'ai pas mal documenté. Et c'est peut-être la voie qu'il faudrait prendre pour baliser des chemins de passage entre justement les personnes qui sont intéressées par l'Afrique, qui sont capables d'amener des compétences, et en même temps, les flux de financement qui vont accompagner ces compétences.
Anthony ?
Oui, non, je ne peux qu'approuver ce discours. Simplement, ayez bien présent à l'esprit que vous avez 54 pays, et c'est très compliqué de parler de l'Afrique. Ce continent contient à lui seul toute la superficie de la Chine, toute la superficie de l'Inde, plus l'Europe occidentale. Donc, il faut être très prudent. Tout à l'heure, vous parliez des financements. J'aimerais bien savoir quel type de financement. C'est vrai que l'aide des États, c'est terminé, oublions. Donc, vous avez beaucoup d'argent en Afrique. Notamment, n'oubliez pas que vous avez en Afrique anglophone, parce que ici, on est un peu France-Afrique hein, en ce moment. Hein. On oublie qu'il y a toute une partie anglophone où il y a, avec des fonds de pension, des ressources extraordinaires. Et Yves, ok, le Gabon, l'Afrique francophone, sur les questions de financement, ils sont pas très à l'aise. Mais je peux vous dire que dans une toute autre partie de l'Afrique, un bon projet se finance toujours. Et vous avez des investisseurs privés africains. C'est ça l'avenir.
Donc en fait, vous êtes en train de poser le problème de la bonne gouvernance en Afrique francophone. Exactement. Qui veut réagir à ça, Yves ? Il n'y a pas un problème de gouvernance, en effet, en Afrique francophone, y compris au Gabon, peut-être.
Lorsqu'on parle de bonne gouvernance, il faudrait bien resituer les choses dans leur contexte. Au Gabon, précisément, je parlerai particulièrement de mon pays. Lorsque nous partageons aujourd'hui l'ambition de développement qui est en marche, à savoir ce plan stratégique Gabon émergent, nous avions bâti les fondements qui ne sont rien d'autre que les facteurs clés de compétitivité. Et donc, ils sont au nombre de quatre. La première, c'est le capital humain. Et je suis tout à fait à l'aise avec le public qui vient de révéler qu'il est important que nous puissions nouer un ensemble de partenariats où le secteur privé devrait jouer son rôle. Et pour réellement assister à un véritable décollage de l'activité économique, il faudrait bien que la petite et moyenne entreprise puisse trouver son rôle à travers les incubateurs et que ce partage de compétences, ce partage et cet échange devrait, n'est-ce pas, aider la diaspora à pouvoir, n'est-ce pas, repartir vers l'Afrique. Le deuxième fondement, une fois qu'on a un capital humain formé qui peut répondre aux ambitions de développement d'un pays, il faudrait s'assurer de la gouvernance. Mais la gouvernance dans toute sa dimension. Est-ce que aujourd'hui l'Afrique présente quelques pesanteurs en matière de gouvernance? Et voici pourquoi nous disons que nous devrions nous mettre dans un partenariat gagnant-gagnant, en ce sens que l'Europe dispose non seulement d'infrastructures, mais aussi des institutions bien outillées qui devraient faire ce transfert de compétences, ce transfert de connaissances pour que l'Afrique puisse profiter et la rendre davantage plus forte. C'est vrai que l'Afrique présente un ensemble d'insuffisances, tout en sachant, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, Anthony, je suis d'accord avec vous, que lorsqu'on parle de l'Afrique, c'est 54 États.
Donc plus de juges, plus d'inspecteurs des finances, oui. C'est ça que vous voulez dire. On viendra sur les deux autres points après. D'accord. Arantxa, quand notre intervenant dans le public dit qu'il faut que les gens reviennent en Afrique, c'est bien, mais aujourd'hui, tout le monde dit qu'il y a plus de médecins béninois en France qu'au Bénin. Je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est ce qu'on disait il y a 2 ans, peut-être que ça a changé depuis. Est-ce qu'il n'y a pas des pesanteurs quand même qui font que beaucoup d'étudiants qui sont venus en Europe préfèrent rester en Europe et ne retournent pas?
Oui, c'est une réalité, ça. Je l'ai vu aussi en Zambie avec les infirmières, où il y a une formation qui s'est faite en Zambie, mais les infirmières passent ensuite en Grande-Bretagne. Et encore une fois, tout cela est en mutation et en transformation. C'est les classes moyennes qui augmentent en Afrique parce que la croissance d'école en Afrique, parce que les institutions africaines s'améliorent, parce que l'éducation s'améliore à ce moment-là. Il va y avoir des mouvements dans les deux sens. Là où je suis d'accord avec l'intervenant, c'est que le transfert d'argent de la diaspora aujourd'hui, c'est la plus grande source de revenus en Afrique. Plus large que l'aide au développement et plus large que les investissements directs. Alors la question maintenant, c'est comment utiliser tout cela, pas simplement pour la consommation, parce que très souvent cet argent revient dans les familles et il s'agit d'acheter un frigidaire ou une maison ou une voiture. Comment on peut utiliser une partie de cet argent pour faire des investissements en Afrique? Et là où il y a un investissement fort à faire, et je suis d'accord avec vous monsieur, c'est dans l'aide aux petites et moyennes entreprises pour qu'elles améliorent la compétitivité. D'ailleurs, c'est un sujet qui devrait intéresser aussi l'Europe, puisque les petites et moyennes entreprises en Europe pourraient aussi être mieux outillées pour être une source plus forte d'emploi.
Yves.
J'abonde dans le même sens qu'Arantxa. Lorsqu'elle fait allusion du transfert des migrants qui représente aujourd'hui, lorsqu'on regarde les chiffres, pratiquement 60 milliards de dollars, c'est une véritable source de financement que nous, Africains, nous devrions capter, mais capter en ce sens qu'il fallait naturellement préparer, parce que la petite et moyenne entreprise qu'il va falloir promouvoir, il faudrait bien identifier dans quel secteur d'activité que cette petite et moyenne entreprise peut réaliser du chiffre. Réaliser du chiffre sous-entend que ça va créer la richesse et que cette richesse devrait aider à favoriser le décollage des pays africains.
Anthony n'est pas d'accord. Anthony Boutelier.
Il faut arrêter avec cette histoire de PME. Il y a énormément de PME en Afrique. Les Africains sont des entrepreneurs, mais elles sont, comme on dit, dans l'informel. Pourquoi sont-elles dans l'informel? Je vous rappelle que l'un des deux pistons du développement, c'est l'état de droit. Heureusement qu'il y a l'informel en Afrique, parce que ça occupe beaucoup de monde. Et comment voulez-vous que quelqu'un paie des impôts lorsque l'État n'assure pas la sécurité, n'assure pas un bon fonctionnement de la justice? Donc je lui dis, vous avez raison de ne pas payer d'impôts, vous avez raison de rester dans l'informel. Et n'oubliez pas que l'Afrique est la seule partie du monde où le sous-développement reste le défi de tout un continent, alors que partout ailleurs, cela devient l'exception. Et pourquoi? Parce que sur les 54 pays, il y a encore beaucoup trop de pays où le lien prévaut sur le droit. En d'autres termes, il vaut mieux être copain du chef que de respecter la loi.
Yves Mofumbi.
Merci Christophe, moi je ne partage pas cet avis. Je partagerai jamais cet avis parce que tout simplement, la petite et moyenne entreprise en matière de développement économique d'un pays, on l'a rappelé, nous ne pourrions pas espérer au développement économique si et seulement si nous n'arrivons pas à promouvoir la petite et moyenne entreprise. Donc nous pensons qu'aujourd'hui, il faut faire un ciblage. Le monde est en mouvement, l'Afrique est en mouvement, et c'est ce mouvement qu'il faut dynamisée aujourd'hui. Et l'Europe a l'expertise pour accompagner la petite et moyenne entreprise. Et donc nous avions besoin de cette expertise de l'Europe pour pouvoir encadrer la petite et moyenne entreprise africaine pour qu'elle soit davantage performante. Parce que aujourd'hui, il a bien souligné Anthony, il a bien dit qu'il faudrait bien que le secteur privé s'implique. Si le secteur privé ne s'implique pas, il n'y aurait pas de développement. Donc nous nous disons, dans le souci de l'implication formelle du secteur privé, nous pensons qu'il faut qu'il y ait cet accompagnement par l'expertise de ceux qui ont commencé avant nous, pour que nous puissions tirer les leçons du passé.
Est-ce que, Arantxa González, c'est un problème d'expertise insuffisante ou un problème de corruption et d'autoritarisme dans les sociétés africaines ?
D'abord, je m'excuse, mais quand les PME représentent 95% de l'écosystème d'une économie, on ne peut pas les oublier. C'est 95% les PME du tissu industriel des plein des pays dans le monde et d'ailleurs pas simplement en Afrique. Alors, trois problèmes. Et chacun doit faire sa part. Il y a un problème d'infrastructure. Il y a un problème des tailles des marchés beaucoup trop petits. Il y a un problème des capacités. Et il y a un problème des taxations. Si on a dans un pays un système de taxation qui repose uniquement dans la taxation de petites et moyennes entreprises, alors ils sont dans l'informel. S'il n'y a pas des taxes sur le foncier, s'il y a des exemptions pour les multinationales, s'il y a des exemptions pour le gros commerçant, c'est clair, la base de l'impôt va reposer sur les petites et moyennes entreprises et on va avoir une énorme partie de ces entreprises qui vont passer dans l'informel. Donc il faut s'occuper des systèmes d'imposition. Ne faisons pas non plus comme si ceci était qu'un problème pour l'Afrique. Restons quand même sérieux. Deux, sur les infrastructures, c'est vrai. Encore une fois, quand vous vous promenez un peu dans les pays en Afrique centrale, par exemple, vous voyez qu'il y a beaucoup de pays enclavés où les infrastructures sont très, très, très compliquées. Hélas, là, je peux faire une petite annonce de l'Agence des Nations Unies que je dirige parce que c'est exactement de cela que nous nous occupons. Mais encore une fois, nous ne pouvons pas simplement fermer nos yeux sur 95% du tissu économique d'un pays qui, d'ailleurs, emploie les jeunes et les femmes, qui sont quand même très souvent plus de 50% de l'emploi dans les pays. Mais à chacun de faire sa part, à l'État, à l'entreprise, aux acteurs de la société civile et au système éducatif. Chacun doit faire sa part du travail.
Juste un mot sur les transferts d'argent. Dans le rapport Védrine, il y a l'idée de baisser le coût de ces transferts d'argent, puisque comme vous le savez, les sociétés de transfert d'argent prennent une grosse commission. Y a-t-il une autre question dans la salle ? Alors, je ne vous vois pas. Voilà, vous êtes dans le fond de la salle.
Bonjour.
Bonjour.
Je m'appelle Sidi Bessouleymane. Je suis d'origine guinéenne. Monsieur Boutelier, vous avez parlé tout à l'heure de donner des bourses aux étudiants africains pour la France. Pourquoi, au lieu de nous donner du poisson à la jeunesse africaine ou à manger, pourquoi vous ne donnerez pas des bourses aux bons profs ou aux bons instituteurs européens pour aller en Afrique et éduquer la jeunesse africaine ?
Là, c'est une question aussi pour Arantxa, puisque je crois que vous avez...
Moi, je crois que l'époque du colonialisme est terminée. C'est fini. Il y a des bons éducateurs en Europe qui peuvent partager leurs expériences avec leurs confrères africains. Il y a des très bons instituteurs en Afrique qui peuvent partager leurs expériences avec nous, Européens. Il y a des bonnes entreprises en Europe qui peuvent partager la connaissance et les know-how avec l'Afrique et de même de l'Afrique vers l'Europe. C'est de tout cela, ce qu'il faut faire, c'est un bon métissage dans les deux sens.
Yves ?
Oui, il faudrait comprendre une chose. Tout dépend aujourd'hui de la vision de développement des États africains. Chaque État n'a pas forcément les mêmes besoins de développement en termes de ressources humaines, les mêmes développements en termes d'infrastructures. Donc à partir de cet instant, quand on a une vision qui est claire, il faut aller à l'action. Et c'est cette action qui va nous amener tous à aller très rapidement, cerner quels sont les besoins de développement du pays en phase avec l'ambition de développement. Et ça, c'est très important.
Arantxa González, Yves-Fernand Manfumbi, Anthony Boutelier, merci. À vous écouter, l'Afrique aura encore besoin de l'Europe en 2030, mais l'Europe aura également encore besoin de l'Afrique. Je vous souhaite à tous une très très bonne soirée. Au revoir.
Merci Christophe Boisbouvier pour ce débat enregistré donc à Rennes dans le cadre du forum organisé par le quotidien Libération. 40 échanges sur le thème prospectif 2030. RFI était partenaire de ce forum. L'Afrique aura-t-elle encore besoin de l'Europe en 2030 était le thème de cette édition de Géopolitique. Merci également à Manu Poche à Rennes et Nathalie Laporte à Paris. Pourquoi dure les dictatures sera le thème de demain.